Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Comment dire ?
Une émission proposée par le département d'études théâtrales de l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Produite par FM+.
Réalisée avec la collaboration de la revue Spintica.
En partenariat avec La Baignoire.
Lieu dédié aux écritures contemporaines.
Et les éditions Espace 34.
Faut que tu t'éclaircisses la voix. Tu essayes de le dire. Et voilà.
Je vais dîner ce soir chez Serge. Il y a du progrès.
Comment dire ?
C'est avec une infinie reconnaissance que je souhaite vous adresser mes plus sincères remerciements à Eva Doumbia d'avoir accepté d'être là parmi nous dans cette journée d'études sur les écritures sur la scène décoloniale. Eva Doumbia est un auteur, metteur en scène, auteur, pédagogue, directrice artistique du festival Massilia Afropéa et la compagnie La Part du Pauvre Nana Tribon, compagnie avec laquelle elle occupe aujourd'hui le théâtre des Bains-Douches à Elbeuf. Elle est actuellement artiste associée au Théâtre du Nord à Lille et aux ateliers Médicis. Nouvelle structure initiée par le ministère de la Culture à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Après des études en lettres modernes et au théâtre à l'Université de Provence, elle se forme à l'unité nomade de formation à la mise en scène auprès de Jacques Lassel, Christian Lupin, André Angèle, Dominique Muller, Pierre Mellet, André Serré, Marion Elwelt. Sa démarche artistique questionne poétiquement les identités multiples. Elle tente à la construction sensible de ponts entre différents mondes, l'Europe où elle vit et elle est née, les Amériques, Haïti, les USA, le Brésil et l'Afrique, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Niamey, Brazzaville, Libreville. Son travail croise les formes et les disciplines. Elle a notamment publié Le Yinche chez Actes Sud, Sud Papier, édité en 2020, et a présenté Autophagie en 2021 dans le cadre du festival In d'Avignon. Elle a été un des membres fondateurs du collectif Décoloniser les Arts et a contribué à l'ouvrage Décolonisons les Arts. J'aimerais débuter cette session avec une première question pour vous. À quel moment s'est fait la rencontre entre vous et le théâtre? Et pourquoi se tourner au départ vers ce domaine artistique précisément?
Alors, quand j'étais enfant, je voulais faire des comédies musicales puisque je voyais les comédies musicales américaines à la télévision. Et j'ai commencé par faire de la danse, mais je voulais aussi écrire. Dès que j'ai su lire, je voulais écrire. Et je crois d'ailleurs que j'ai écrit des choses quand j'étais petite, des poèmes. Je crois que j'avais écrit un roman en CM2 ou un truc comme ça. Et en fait, je pense, donc j'ai fait de la danse, mais comme j'ai dans la ville où j'ai grandi, il n'y avait pas de cours de danse de claquette. On était la seule famille noire. Sachant que ma mère est blanche, hein, c'est assez important de. Enfin, vous l'avez déjà entendu dans le résumé qu'a fait dans la communication de Pénélope. Avant de commencer, d'ailleurs, je voudrais remercier l'université, Pénélope et tout le monde et tous les étudiants et toute la structure en fait qui m'a invitée. Donc voilà, donc j'ai commencé. Donc je savais que je serais dans les arts petite. Puis j'ai commencé, on va dire, le théâtre à 14 ans, comme tout le monde, hein, au lycée, puis en même temps dans un centre culturel de la petite ville communiste où j'ai grandi. Et puis, et en fait, effectivement, je pense que le théâtre faisant le lien entre la pratique de la scène qui m'intéressait plus l'écriture, c'est naturellement que j'ai continué. En fait, j'étais très très mauvaise en danse classique. Et je crois qu'il y a une chose qui est aussi dans le lien, c'est aussi cette histoire effectivement de racisme, mais qui ne disait pas son nom. Et puis de toute façon, les personnes ne savaient pas qu'elles étaient racistes non plus, puisque ma sœur et moi, on était les deux seules personnes non blanches du cours de danse, et on était tout le temps au fond. Et on était les seules à ne jamais faire les spectacles. Donc en fait, on prenait les cours, et moi j'en ai fait 7 ans en fait de la danse classique. Isabelle, elle a arrêté avant. Et en fait, on faisait jamais les spectacles. Et en fait, je pense que quand on vit dans un bain comme ça, on sait pas forcément que c'est pas normal, tout ça. C'est après. C'est quand on en sort, en fait, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre que j'ai jamais fait de spectacle de fin d'année, alors que j'ai fait cette tendance classique. Alors je, voilà. Alors, dans ma tête, c'est parce que j'étais nulle. Mais en vérité, je pense que c'est que j'avais pas le corps conforme, en fait, avec la cambrure, etc. Je faisais du violon aussi. Alors là, par contre, là, réellement, j'étais nulle. Mais moi, c'est pas difficile d'être nulle au violon. Et voilà. Donc, le théâtre s'est imposé à moi quand j'avais 14 ans et je pensais vraiment que j'allais être comédienne. Et encore une fois, je pense que si j'avais passé les concours, si je passais les concours aujourd'hui, je les aurais. Parce que j'avais le deuxième tour, pas le premier. Et maintenant, évidemment, je réalise que quand j'ai passé le concours du TNS, par exemple, il n'y avait jamais eu de noir, en fait, à l'époque. Faut savoir qu'au TNS, les premiers noirs ont été choisis dans l'école, hein, en 2002. C'est tard, hein, en fait. Quant au Conservatoire National Supérieur, il y a eu des étudiants étrangers avant. Et en fait, c'est très récent, en fait, qu'on a des noirs et des arabes et des asiatiques et autres dans les écoles de théâtre. Voilà.
Merci pour cette réponse à la question d'Una. J'aimerais enchaîner, Eva Doumbia, sur une autre question. Vous avez été une des premières, sinon la première, à vous saisir des textes d'artistes comme Leonora Miano, qu'on a cité plus tôt. Du coup, je me demandais pourquoi cet intérêt pour l'afropéanisme et quel impact, en fait, ça a eu sur votre pratique artistique et peut-être votre façon de voir le monde de manière plus générale.
Alors, en fait, moi, j'avais commencé par écrire, mais en fait, je pense que, par exemple, le livre Ange Fêlé, en fait, en vérité, c'est un roman, mais qui vient de textes théâtraux que j'ai montés en 99 et qui parlaient déjà, en fait, à l'époque, sans que ça soit nommé, de l'afropéanité, en fait, de ce que c'est que d'être afropéen, mais c'était pas encore nommé. Le mot afropéen nous vient du monde anglo-saxon, du monde britannique. Et effectivement, oui, je suis la première à avoir monté les textes de Leonora Miano, qui, quand je l'ai rencontrée, n'écrivait pas de théâtre, en fait. Je l'ai rencontrée parce qu'à l'époque, j'avais envie de travailler sur... donc, après ce temps d'écriture, et je reviendrai pourquoi, en fait, j'ai arrêté pendant 15 ans d'écrire, j'ai cherché des textes qui correspondaient à ce que j'avais envie de raconter. Et je le trouvais beaucoup plus dans les romans de femmes noires. Et donc, à un moment donné, je voulais travailler sur l'univers de Toni Morrison, et je m'étais dit, avant d'arriver à Toni Morrison, eh bien, peut-être traverser d'autres écritures qui sont influencées par Toni Morrison. Et effectivement, Leonora Magnano en fait partie. Et la première fois qu'on s'est parlé avec Leonora, c'était autour de L'intérieur de la nuit, dont je voulais faire une adaptation. Ou Contour du jour qui vient, je me souviens plus. Et puis il y a un temps, un cheminement qu'on a fait ensemble. Et puis quand elle écrivait ce qui est devenu après Blues pour Élise, il y avait une partie qu'elle voulait essayer de mettre en théâtre. Elle me l'avait envoyée. On avait fait une lecture avec une actrice qui s'appelle Nanténé Traoré. On avait fait une lecture de ça. Et par la suite, elle m'a envoyé les écrits, ce qui allait devenir les écrits pour la parole et Tombeau, etc. Voilà. Et je pense qu'en fait, d'avoir traversé ces écritures-là, ça m'a permis de formaliser ce que je savais et ce qui était au fond de moi, mais que je n'avais pas réussi sans distance à nommer. Et d'avoir traversé les écritures donc de Leonora Miano, Jamaica Kincaid, Yannick Lahens, qui est aussi dans la traversée, Fabienne Canor, ou Marie Scondé, évidemment, Toni Morrison aussi, effectivement. En fait... ça m'a permis de revenir à l'écriture moi-même, parce que finalement je me suis aperçue que les textes que j'adaptais pour le théâtre, en fait, ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'avais envie de dire précisément. Et donc, comme ça m'a été dit avec beaucoup d'élégance, je les charcutais. et régulièrement, certains auteurs ou autrices me disaient: mais pourquoi t'écris pas? Et en fait, c'est parce qu'en fait j'avais eu peur. C'est-à-dire que les premiers textes que j'écrivais pour le théâtre, qui étaient écrits pour des lieux non théâtraux, comme Les Anges Rouges de la Ville, qui est devenu ensuite le roman Ange Fêlé, ou homme-femme escargot qui va aussi se transformer, je sais pas, en quelque chose plus tard aussi. Ce sont des textes qui étaient faits pour des performances, in situ, dans des endroits qui n'étaient pas des lieux de théâtre, etc. En fait, comme je mettais beaucoup d'affect dedans, beaucoup de moi-même, dès qu'il y avait un retour négatif, c'était très très cruel et je le vivais très mal. Et donc, en fait, pour me protéger, j'ai continué à écrire sans montrer. Et puis, après un épisode dépressif, j'avais déjà rencontré Jean-Luc Ramiraman, qui est un romancier, qui est un homme aussi de théâtre malgache, qui était aussi à l'époque éditeur chez Vendailleur. Il m'avait dit, on cherche des filles à publier. Est-ce que t'as des choses? Donc, je lui ai envoyé des bouts, et en fait, il m'a accompagnée sur l'écriture du roman, La transformation des anges rouges de la ville en anges fêlés. Et le fait d'avoir été, donc il m'a accompagnée sur cette écriture, et puis un jour, ils sont venus chez moi avec sa directrice pour me proposer la publication. Et à partir de là, ça m'a complètement décomplexée, puisque comme j'étais, l'édition est venue vers moi, à partir du champ du roman qui était quand même pour moi beaucoup plus on va dire prestigieux que l'écriture dramatique, du coup ça m'a permis de me dire mais en fait je pourrais écrire quelque chose. Et après avoir écrit Afropéenne, je sentais qu'il fallait parler des garçons. En fait, après Afropéenne, je parle du spectacle, hein, Afropéenne, puisque les textes sont de Léonora Miano. Mais je sentais qu'il fallait parler des garçons, qu'il y avait ce manque en fait de parler de la vulnérabilité du corps masculin noir dans l'espace occidental et français en particulier. Et donc je me suis mise à écrire le lien. Et à ce moment-là, au moment où j'écrivais, je racontais l'histoire de ce garçon et de cette fille dans cette famille, Adama Traoré a été tué. Et donc en fait, ça a modifié l'écriture.
Merci.
Eva Doumbia, dans votre univers artistique, il y a une valeur que vous revendiquez beaucoup, qui est celle de l'hybridité dans le travail de l'art et du croisement entre différents domaines à la fois culturels et artistiques. Vous empruntez notamment des codes donc à la danse, dont vous avez déjà parlé, mais aussi à la mode et à la cuisine, par exemple. Est-ce que vous considérez que cette hybridité, c'est une forme d'expression d'un théâtre qui s'inscrit dans une pratique décoloniale?
Alors, il n'y a pas de pensée de ça à la base, en fait. Je pense que l'hybridité de mon travail vient, et aussi que dans l'écriture, parce que je sais que moi, je mélange les langues, ce qu'on appelle des niveaux de langue faussement, puisque c'est pas des niveaux de langue, c'est des langues, en fait, des manières de parler le français. Justement parce que j'essaie de déhiérarchiser. Et déhiérarchiser, c'est aussi un acte militant, parce que à l'intérieur de moi, il y a plusieurs... Il y a plusieurs cultures, et pas simplement des cultures, on va dire, liées à l'origine géographique, mais aussi des cultures sociales. C'est que, comme je suis à la fois du monde de la pensée et du monde ouvrier, et ben pour moi, en fait, j'ai jamais compris, par exemple, pourquoi est-ce que certains sont payés plus que d'autres. Et donc, il n'y a pas de pensée de l'hybridation. L'hybridation, elle se fait de fait. Et effectivement, je me suis aperçue en travaillant que mon travail était empreint de quelque chose qui avait été tué dans mon enfance et dans mon éducation, qui était les cultures africaines.
Supermarkets burning like forever.
Qu'on peut travailler à partir de l'amertume et à partir de la colère, en fait. Et je pense que la colère et l'amertume sont des choses qui ne sont pas forcément négatives. C'est-à-dire qu'il faut, il ne faut pas avoir grandi à l'école, ne faut pas avoir été noir dans une école maternelle de France pour ne pas comprendre ce que c'est que l'amertume. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement. Et il y a des mécanismes qu'on, on vit avec des mécanismes de défense, en fait, quand on est né ici, dans un espace où on est minoré, en fait. Et moi, je crois, en fait, que la colère et l'amertume, et ces émotions négatives sont des choses à accueillir parce qu'elles sont aussi créatrices. Et que se dire, ben, en fait, non, on peut accueillir en soi. Il y a quelque chose que je trouve qui est un peu, on va dire, un peu hippie. Hein? Moi je revendique l'amertume, la colère, et puis aussi maintenant, parce qu'on m'a beaucoup avant je me défendais, on me disait oui mais vous n'avez pas peur d'être culpabilisatrice, et en fait depuis Autophagie je réponds oui, et c'est le but, parce que moi cette culpabilité je la porte et j'ai envie de la partager, et qu'en fait tant qu'en fait on ne se dira pas je suis responsable, je commets des fautes régulièrement avec mon téléphone portable on pourra pas les changer, les choses. Donc c'est vraiment des choses moi j'ai changé de discours par rapport à ça, mais parce qu'en fait tout simplement mon discours il a évolué. Et parce qu'effectivement, dire je ne suis pas en colère, ou je ne suis pas amère, ou je ne veux pas vous faire culpabiliser, ce n'est pas vous contre moi, etc. C'est aussi un moyen de se défendre, de se protéger, parce qu'on est régulièrement en milieu hostile. Là, on est très peu de personnes noires dans cette salle, par exemple. Donc, je sais que je suis en milieu pas forcément ami partout, en fait, et que des choses peuvent être tendues, en fait, dans ce que je peux dire. Mais en fait, en étant régulièrement dans des milieux hostiles, ou qu'on pense être hostile, en fait, on anticipe en fait un discours ou une manière de penser ou de parler pour se protéger. Parce qu'en fait, on sait d'avance ce qui pourrait être dit ou pensé, en fait. Donc en fait, on se défend. C'est une forme de défense, en fait. Moi, je m'en suis aperçue en réécrivant Autophagie pour l'espace africain-américain où j'allais jouer, puisque en fait, il fallait adapter des choses, et je me suis aperçue que je m'étais censurée dans la première version, que je m'étais auto-censurée parce que je savais que j'allais au Festival d'Avignon et que j'avais pas envie de me prendre Libé Le Monde qui me défonce. Ça n'a pas empêché, hein. De toute façon, je me suis quand même fait défoncer par Libé, mais ou par des trucs pires encore. Mais après, il y a eu des choses très élogieuses, hein, je veux dire, mais en fait, j'avais pas envie. Mais en fait, c'était pas conscient. C'est que je me disais, en écrivant ça, je peux pas le dire, parce qu'en fait, c'est une forme de marronnage, hein. T'as de choses où on dit les choses sans les dire. Ce qui est un principe de toujours, et c'est pas simplement quelque chose l'écriture ou le travail codé, en fait. ça a toujours existé. L'Apocalypse, c'est un grand exemple de ça. L'Apocalypse de Saint Jean, en fait, quand on sait que 666, ça veut dire Babylone, donc ça veut dire Rome, en fait. Tout est codé. Et ben en fait, donc en fait, on a besoin de s'exprimer, mais en fait, on cherche des stratégies quand on se sent en milieu pas forcément safe, en fait. Je dis pas qu'ici c'est un milieu pas safe, hein, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis l'exemple, en fait, c'est que, ben voilà, en fait, si on parle de, on est très peu de personnes racisées ici dans cette salle, et c'est pas, comment dire, c'est pas une chose, c'est pas contre, hein, que je dis ça, c'est juste un constat. Ben en fait, on va adapter un discours, en fait, en vérité, et on va adapter un travail aussi, et que moi, mon travail finalement, il emprunte des détours. Pour ne pas forcément dire, par exemple, dans le travail d'écriture, mes personnages, ils finissent jamais leurs phrases. Si vous l'avez, celles et ceux qui ont lu Le Yinche, ben en fait, c'est pour pas dire le mot raciste et sexiste. C'est pour pas m'entendre dire, ah, c'est didactique. Parce que ça, c'est le gros, gros mot. C'est pareil, c'est une chose que je revendique maintenant, le didactisme. Il faut apprendre les choses. Maintenant, je suis très contente, par exemple, sur mon prochain projet qui va parler des Noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis ravie qu'Omercy a fait son film Tirailleurs, parce que du coup, ça va me permettre d'enlever des parties. Parce qu'il y avait des parties qui me servaient, en fait, à mettre en contexte, en fait. Donc, du coup, tout ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Mais je veux dire, c'est ces stratégies, effectivement, de couper de que les personnages, en fait, finissent pas leurs phrases pour pas dire les mots qui fâchent. C'est quelque chose que j'ai mis en place dans l'écriture. En fait, je reviens dessus, actuellement. Mais parce que maintenant, j'ai une place qui me permet de le faire.
Un jour d'octobre 528, après Colomb, en ce début épidémique de notre siècle, lorsque je traversais une gare parisienne, clignotaient les enseignes de commerce décrétées essentielles. Douceur chocolatée, thé, café, or fabriqué à la chaîne, sont les traces de préciosité meurtrière. Ce qui est rare est cher, ce qui n'est plus rare n'est plus cher. Petite production agricole ou plantation à l'étranger restent des exploitations de corps éloignés, des localisations. Ça commence comme ça. Ça commence toujours comme ça. Tout commence toujours comme ça pour un rien. Et tout continue comme ça, pour rien. Tout commence ici par une histoire de sucre. C'est-à-dire pour rien. Pour une affaire de chocolat qui ne sert à rien. Tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Tout a commencé et tout continue pour rien. Pour rien. Les indigènes génocidés, leur mémoire parquée, effacée. Pour rien les millions de familles décimées de femmes, enfants, d'hommes à leur terre arrachés, leurs corps entravés, leurs membres blessés, leurs viscères avariés, leurs cadavres parfois jetés par-dessus le bord des bateaux. Pour un rien, les blessures inguéries et toujours vives malgré les décès au cachot. Pour rien, les souffrances indicibles, les famines infligées au fond des cales. Pour rien, les tortures indescriptibles enfermées dans les ruines d'une prison. Pour rien, pour qu'une poignée puisse, outre les mers, boire sa tasse de chocolat, bien sucrée, bien vanillée. Les pleurs des torturés restent pour toujours agrippés aux branches d'un figuier maudit. Pour rien. Aujourd'hui, quels yeux d'enfant te regardent du fond de ta tasse de chocolat? Est-il ivoirien ou brésilien, ce gamin?
En fait, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la colère et l'amertume, ça a à voir, c'est qu'en fait, le collectif, il est né de la colère et de l'amertume, en fait.
Eva Doumbia, à propos de décoloniser les arts. Association créée en 2015 afin de dénoncer la discrimination dont les personnes racisées font l'objet et qui milite pour une meilleure représentation des minorités ethniques dans les institutions culturelles françaises.
Alors, il y a eu Exhibit B. Exhibit B. Le collectif Exhibit B, moi je n'en faisais pas partie. Je le précise toujours parce que c'est important de dire que les fondateurs RIS de décoloniser les arts ne sont pas les mêmes, ne font pas tous partie de l'histoire d'Exhibit B. Moi ce que je trouvais, j'avais pas vu le spectacle donc je pouvais pas faire partie de ce collectif contre Exhibit B. Ça m'intéressait pas beaucoup en fait en termes de forme. J'avais deux choses. Un peu comme ça, d'ambulatoire, où on voyait des pauvres. Mais ce que je trouvais un peu quand même vraiment pour le coup tarte à la crème, c'était d'aller à Saint-Denis et puis enfin c'était d'aller à Saint-Denis dire à des gens regardez ce que ça fait d'être noir, parce que c'était quand même vraiment c'était ça que moi que je trouvais tarte à la crème. Et après, ce qui m'a intéressée et ce qui a fait que je me suis un peu investie dans cette affaire, c'est quand j'ai vu une émission de télévision, il y avait Bams qui se faisait super maltraiter par trois personnes blanches où elle était en minorité et en fait elle se faisait humilier. Et je me rappelle de conversations téléphoniques avec Léonora Miano, on disait on n'est pas forcément d'accord avec l'appel à l'interdiction, mais par contre ça c'est pas possible quoi. Et ça il faut y aller du côté des gens qui se font humilier comme ça en public régulièrement. Donc il y a eu ces premières rencontres. Et puis ensuite, il y a eu premier acte. Pas mal de gens ont reçu, enfin du milieu avaient reçu une invitation pour assister à une table ronde qui s'appelait Pourquoi les plateaux sont-ils si blancs ? Alors on dit ouais, super. Sauf qu'en fait, quand on regardait qui est-ce qui était à la table, et ils étaient quand même une dizaine, tout le monde était blanc. Donc en fait, en gros, on était invités. Avoir des gens qui parlaient de nous en notre présence. On préparait un coup. Voilà. Et en fait, on y est allé. Et on a foutu le bordel, on les a empêchés de faire leur truc. Ils ont pas pu parler. Je me rappelle de Laura Adler qui est partie en disant « j'y arrive pas », qui disait « je sais qui vous êtes ». Et en fait, je crois qu'en fait, elle nous confondait. Voilà. Et en fait, ils ont pas pu. Et à partir de là, c'est au moment de cette crise qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit, en fait, de positif? Et donc, il y a eu un premier collectif qui s'appelait, Égalité citoyenne en acte. On s'est disputé. Pour des questions de pouvoir. Puis il y avait des hommes dedans. Donc, on s'est un peu disputé pour des questions de pouvoir. Et puis, je me souviens d'une discussion avec Gertie Damburie. C'est la même période où j'ai essayé de monter, où j'ai commencé à monter Massia Afropéa. Enfin, tout ça, il y a plein de choses. Tout ça, ça vient de ce même mouvement. Et finalement, en fait, Premier Acte, ça vient de là aussi. Mais ça a été extrêmement maladroit parce que ce qu'on prenait mal, nous, dans Premier Acte, c'était, donc, il y a une école pour nous et puis une école pour les autres. Et ça, c'était difficile. C'était, et puis, le fait d'être recruté, on disait, bah, en fait, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais en même temps, on recrute les gens en fonction de leur couleur de peau. Il y avait quelque chose qui marchait pas, en fait. Donc, il y avait un truc humiliant. Et puis, il y avait pour moi une forme de chose descendante et non pas horizontale. J'avais l'impression que ce dispositif, en vrai, je le pense encore, en fait, il sert à fournir à l'institution des acteurs qui vont parler comme ça, voilà. Mais qui vont jouer les sans-papiers. Et en fait, la plupart du temps, en vrai, c'est ce qui joue, hein. En vérité. C'est ce qui joue. C'est que ces acteurs-là, ces actrices-là, en fait, qui sont formés dans ces dispositifs-là, vont entrer dans les écoles nationales supérieures et donc, ils vont être assignés à des rôles, en fait, qu'ils n'auront pas forcément choisi. Donc, en fait, il y a une double tension pour les actrices noires, maghrébins, asiatique, rome ou issus d'autres minorités, c'est qu'à la fois ils ou elles ont envie de jouer des rôles qui correspondent à ce qu'ils sont, et en même temps ils sont assignés par d'autres. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est compliqué en fait. Ça s'appelle double bind, la double contrainte. Et en fait, on a bu un verre avec Gertie Damburie et Camira Alcaraz, il y avait aussi Marine Nguyen Bachelot, toutes les quatre, je crois, au début, et on s'est dit, on monte un... Et Gertie a dit, il faudrait qu'on fasse un truc entre femmes. À partir de là, on a créé Décoloniser les Arts. David Bobet nous a rejoints. On cherchait quelqu'un pour qui soit pas intermittent du spectacle pour être présidente. Donc on a fait appel à Françoise Vergès et après d'autres gens nous ont rejoints au fur et à mesure. Mais l'idée c'était d'être pas uniquement sur les questions de représentation mais aussi sur les questions de récit. Et aujourd'hui moi je voudrais travailler non seulement sur les récits mais aussi sur les dispositifs scéniques. Décoloniser le dispositif scénique, décoloniser le frontal. C'est comment, en fait, on peut inventer d'autres dispositifs tout en ayant les moyens de production. Parce que faire du théâtre pauvre, c'est pas forcément un choix. Donc, il faut aussi qu'il y ait un partage des moyens de production. Ça, c'est aussi, fait partie aussi du credo, hein, de décoloniser les arts, qui est un partage des moyens de production. Et aussi, donc, de décoloniser aussi les salles, c'est-à-dire, tout à l'heure, on posait la question du public. Évidemment que les personnes qui sont issues, qui ont des parents du Rassemblement National, d'ailleurs, ils ne sont pas souvent d'accord avec leurs parents, quand ils vont au lycée. Toutes les personnes, en fait, d'avoir une plus grande mixité, en fait, dans les salles de spectacle, et pas forcément avec des gens qui sont captifs. Parce que moi, je trouve ça terrifiant, en fait, d'avoir des gens qui sont obligés de venir, qui vont forcément s'ennuyer, même si qui vont avoir du mal à être attrapés. Mais je crois qu'aujourd'hui, le collectif, il existe sans exister, puisqu'en fait, chacun d'entre nous, en fait, continue ce travail dans sa pratique. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Alors à Elbeuf, ce qu'on fait, en fait, dans le théâtre, c'est essentiellement, c'est un lieu de fabrique, et puis c'est un lieu d'action culturelle. C'est-à-dire qu'on a depuis 4 ans une série, comme une série Netflix, en fait, qui se joue une fois par mois avec des personnages. Ils sont joués, les acteurs changent tous les ans, mais en fait, le public vient suivre les aventures des personnages qu'ils ont vus en début de saison, en fait, jusqu'à la fin. Voilà. Et la réception, Elbeuf, c'est particulier, hein. C'est une ville ouvrière, enfin même plus ouvrière maintenant. Il y a que tout le monde est au chômage puisque les usines ferment. Multiculturel. Le point commun de tous ces gens, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, c'est qu'ils sont tous dans la merde. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les blancs qui sont à Elbeuf, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les white trash, qui est un terme affreux, que je trouve monstrueux. Moi, en fait, du côté français, je suis originaire de ce milieu, donc je le connais bien aussi, c'est-à-dire le milieu de ce qu'on appelle aussi les petits blancs, hein, pauvres, qui vont voter Front National, etc., etc. Moi, ça m'intéresse d'être là. Aussi parce que pour remplir cette mission d'action culturelle, mais aussi parce que moi je trouve ça inspirant aussi parce que c'est parce qu'en en vérité elle, la ville d'Elbeuf, elle est représentante de toute cette France qui est majoritaire en fait, de toute cette France qui peine, qu'on a vu sur les ronds-points pendant la crise des gilets jaunes, qui peine à finir ses fins de mois, etc., etc. Et donc le travail qu'on fait là-bas, ben en fait, il a à voir avec cette, avec ça en fait. Il a à voir avec ce que sont ces gens et c'est par exemple la série, elle est coécrite avec le public. Tous les, en fait, à chaque épisode, il y a des séances de brainstorming avec les gens qui ont assisté. Et puis je leur dis, vous, les acteurs vont être les porte-parole de ce que vous avez envie de raconter en fait. Et donc ça suit l'actualité. Donc là en fait, par exemple, tout, ça fait trois épisodes que les gens ils sortent dans la rue pour manifester. Après on écrit, j'écris les dialogues. En fait ça va très vite. C'est-à-dire que j'écris en général, j'écris en 3 jours et les comédiens avec les comédiens on travaille 3 jours aussi. Enfin, ils ont une semaine pour l'apprendre. Et puis après, on travaille 3 jours et on présente vraiment, c'est du théâtre pauvre, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décor, rien du tout. On utilise tous les espaces du théâtre pour représenter les décors. Donc le hall devient le bar, la salle d'expo devient. En général, on commence toujours par une espèce par une série de monologues qui à la fois résume et raconte. L'intérieur des personnages, leurs pensées secrètes, etc. Et puis après la fiction commence. Et après ils inventent la suite. Voilà.
529. 529, c'est le nombre véritable pour 2021. Parce que c'est en 1492 que tout a commencé. L'an zéro de mon histoire, c'est 1492. 2021 moins 1492 égale 529. Nous sommes aujourd'hui en 529. En l'an zéro, Christophe Colomb pose son pied sur une terre qu'il croit indienne. Il cherche Gengis Khan en Caraïbes. Le colon est déboussolé. Pré-colombien, Colombie, méso-colombien sont les mots de ma honte. Ma honte désorientée. En 1502, c'est-à-dire en l'an 10 de notre ère colombienne, les caciques caraïbes offrent des fèves de cacao à l'homme au patronyme catastrophique. Colomb jette au flot les précieuses fèves, y croyant voir les excréments séchés de chèvres. On raconte que ce sont des carmélites espagnoles qui l'agrémentent pour la première fois de sucre de cacao. Enfin, on raconte. Certains disent, quand d'autres n'ont plus assez d'héritiers pour les chanter. Tout s'amplifie à la Renaissance, et c'est pire au temps moderne. Au XVIIe siècle, c'est-à-dire au troisième de notre ère colombienne, les monuments d'or candi, édifiés par les pâtissiers des cours princières, pourrissent ici les dents du roi Soleil, tandis qu'ont été abattues là-bas les pyramides amérindiennes. Exportation. Importation, exploitation, extermination. Personne ne pourra plus jamais dire avec précision la violence subie par ces premières nations qui n'auront jamais compris pourquoi on les traitait aussi mal. Déportation. Les engagés d'Europe, les forçats, putains, assassins, endettés et tous les autres sacrilèges ne suffiront pas non plus. Ne suffiront pas non plus à rassasier l'estomac de la plantation sucrière. Importation. Espagne, France, Italie, Portugal, Hollande, Angleterre. On y danse la valse de Vienne et le chocolat crème sucré. Le feu de la canne allume les bactéries présentes dans les dents cariées de tyrans consanguins. Confiture et mélasse dégoulinent dans les palais, dans les fermes. Chacun cherche son sucre, sa mélasse, pour les gibiers, pour les rôtis, pour enjoliver son pain noir. Importation, déportation, exploitation des énergies humaines, on importe des hommes de ce qu'on a appelé Afrique sur ce continent qu'on n'a pas encore nommé Amérique. Import-export.
D'abord, il y a des actrices, des gens qui prennent la parole en ce moment. Moi, je, par exemple, je sais pas si vous avez vu passer sur Facebook le texte de Cyril Gay. Je trouve d'une, vous l'avez peut-être vu, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il a répondu à une, alors je sais pas si c'est Brigitte Salino ou si c'est Fabienne Darge, mais en tout cas, c'est une journaliste du Monde qui a écrit, en parlant de lui, dans un Tchekhov. Cyril Gay qui montre en passant qu'un acteur noir peut tout jouer sans que sa couleur de peau fasse écran. Il peut enfin tout jouer sans que ça. Ben en fait la prise de parole de Cyril qui peut remonter parce que moi j'ai travaillé avec Cyril sur J'aime ce pays à l'époque au théâtre du Rond-Point où il y avait un effet de réel où il disait en fait les acteurs en fait disaient déjà en 2006 qu'il refusait les assignations parce que lui il a fait le conservatoire. Et donc Cyril, en fait, bah, il a répondu avec beaucoup d'intelligence et de dignité, parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, la personne n'aurait rien dit, puisque c'est une espèce de compliment, en fait. Mais en même temps, c'est un compliment qui n'est pas un compliment, parce que c'est un compliment qui nie, en fait, la filiation. Et en fait, je trouve que le fait que quelqu'un qui soit un interprète, et c'est important que ce soit pas un créateur, que ce soit un interprète, disent, je ne veux pas, je refuse ce que vous dites est humiliant. Ça dit des choses en fait. Et en fait, il y a une grande solidarité, je crois, aussi entre les personnes, qui fait que les choses vont bouger. Et c'était ça qui était intéressant dans le collectif Décoloniser les Arts, parce que c'était, on peut pas faire les choses tout seul. C'est-à-dire, vous avez lu le Yinch, quand je parle de l'exception, en fait, je parle du milieu du théâtre. Hein. Parce que moi, je refuse d'être l'exception. C'est quelque chose qui est insupportable. Parce qu'en fait, on sait que l'exception, en fait, elle fait pas avancer. Et donc, comme on sait que dans ce milieu, il va y avoir, toi, tu fais un spectacle sur, je sais pas, telle thématique, bah, en fait, tous ceux qui parlent de la même chose n'ont pas existé parce qu'on a déjà ça. Moi, j'ai quand même entendu, je vais pas dire le nom du directeur de théâtre. Mais à l'époque d'Exhibit B, justement, maintenant c'est les soirs. C'est. En fait, juste avant Exhibit B, moi j'allais voir ce directeur de théâtre et je lui proposais Afropéane. Il me disait, oh, je le prendrais bien, mais j'ai déjà quelque chose comme ça. Et le quelque chose comme ça, c'était Exhibit B. Et en fait, ça voulait dire, j'ai déjà un truc avec des noirs. Parce qu'en fait, Afropéane et Exhibit B, non, c'est même l'inverse, en fait. C'est exactement l'inverse, en fait. Donc, ça voulait dire ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut plus passer, parce que ça, c'était quand même il y a 8 ans. Ça peut plus passer, ce genre de discours. Parce que les gens prennent la parole, parce que les gens se connaissent entre eux, parce que les gens s'unissent. Et je pense que ce qu'il faut aussi qu'on fasse, c'est qu'on n'oublie jamais, et c'est très bien ce qu'a fait Cyril, c'est qu'on n'oublie jamais ceux qui étaient là avant. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est être plus unis, et en même temps, ne pas oublier le passé. Parce qu'en fait, si on se dit, bah voilà, oh, je suis le premier qui a fait ça, c'est génial, moi, en fait, ça veut dire que moi, je vais être oublié aussi. Et en fait, ça va faire que quand je vais mourir, ben en fait, la suite, les autres devront tout recommencer. Et je pense que c'est une des raisons aussi de décoloniser les arts. C'était en fait de faire en sorte que les gens n'aient pas à chaque fois à tout recommencer. Comme moi, je sais que je ne veux... Et c'est une des choses que j'essaie de transmettre dans le cadre de la formation... l'école du Nord, c'est qu'il n'est pas à tout recommencer, en fait. Comme moi, j'ai dû tout recommencer, à chaque fois. Ça, c'est important. Donc, il y a une question aussi. Et puis, il y a aussi, il faut des stratégies pour changer la composition des salles. Les premiers retours qu'on avait sur Afropéenne, c'était très violent. Vous y étiez toutes les deux, à Limoges, c'était affreux. Moi, je suis pas sortie de ma chambre pendant 2 jours quasiment parce que c'était d'une telle violence qu'on se prenait dans la figure. Parce que, en fait, en face de nous, on avait qu'un public hostile. On avait des gens qui venaient les voir, des noirs qui font du tam-tam dans un festival de francophonie. Et en face, ils avaient 6 femmes noires qui disaient je, qui se dressaient, qui avaient une parole souveraine. Alors, la stratégie, ça a été par les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je suis très active sur les réseaux sociaux parce qu'en départ, c'était ça. Par les réseaux sociaux, de modifier la composition de la salle. Parce que un public de l'institution, a priori, qui pourrait être hostile parce qu'il n'est pas hostile, parce qu'il est raciste, juste simplement hostile parce qu'il ne connaît rien, parce qu'il ne s'intéresse pas, parce qu'il est dominant, il n'a aucune raison de s'intéresser aux minorés. Eh bien, en fait, ce public-là, s'il est entouré d'une majorité de personnes racisées, forcément, il va être dans une ambiance qui va modifier son regard. Et en fait, en modifiant les salles, en modifiant ça, mais ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup dessus. Il faut avoir des stratégies. On peut arriver, en fait, à être entendu. Et donc, à arriver à une forme de théâtre pluriversel. C'est ça le but. C'est que chaque, qu'il n'y ait pas une seule personne qui se sente mise sur le côté. J'ai un souvenir, et peut-être je m'arrêterai là-dessus. J'étais avec une amie franco-béninoise réunionnaise dans une salle qui va pas beaucoup au théâtre, et je crois que c'était le D-Book. Et à un moment donné, il y a cette phrase qui est qui dit il y a le mot nègre ou un truc comme ça, et mon amie elle se met à chipper. Et en fait, je me suis dit c'est drôle parce que est très fort. Je me suis dit en fait, elle, ce qu'elle a entendu, c'était l'insulte. Alors que dans la personne qui mettait en scène ou les personnes qui jouaient n'avaient pas imaginé qu'un jour, dans cette salle-là, quelqu'un pourrait se sentir insulté. Si on monte Scapin aujourd'hui, on est obligé de contextualiser. Hein. Scapin, c'est quand même terrifiant. Il y a tous les trucs sur les Turcs, qu'elle était de faire dans cette galère, mais c'est un monument de racisme. En fait, moi, je l'ai relu avec mon fils quand il était en 5e. J'ai écrit à la prof, je dis, pardon, en fait, il y a des arabes dans votre classe. Qu'est-ce que vous faites? C'était pendant le confinement. Elle me dit, normalement, je contextualise, évidemment. Mais on est obligé de le faire. Parce que, ou alors on se dit qu'on monte pas ces trucs. Ce qui est ma stratégie à moi.
Turning bullets into gold. They got the hookers turning tricks into cold. And every time the police kicks in the dough, an angel gas breaks dips in the O. And even if a D-boy flips in my O, it ain't enough to buy shit anymore. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's finna blow, cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters. They got the bombs and we got the
guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run.
Don't talk about it. I know. Read about it. I know. Don't talk about it. I know. Read about it.
Fit the dope lines, I don't snort them. Tell the boss to call police to escort them. You don't ride out them lies, you just quote them.
get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them. The rules are still golden. Only jewels we holding, zip regarding our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dodged the abortion. Neck plate firm, tune the floor and the portion. We'll shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead.
We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine.
Par exemple, le lien, le décor, il est très, il est lourd, celui d'autophagie aussi. Je fais les deux, je fais du théâtre pas pauvre et je fais du théâtre pauvre. Après, c'est vrai que sur la prochaine grosse création, bah évidemment, comme tout le monde, je me dis que quand même, c'est pas tant la, il y a la question écologique, mais il y a aussi la question, je me dis, c'est chaud quand même d'avoir un décor qui coûte plus cher qu'une année de loyer de gens qui peuvent regarder le spectacle. Donc il y a aussi cette question aussi de que les gens se sentent pas écrasés par la magnificence des moyens en fait, parce qu'il y a même quand on reproduit une maison ouvrière, ça coûte de l'argent en fait. Donc il y a ça. Mais alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé comme ça en fait, c'est-à-dire par exemple les Anges Rouges de la ville, on était dans des caves. On avait des écrans vidéo où il y avait, parce que ça, c'était par station, c'était, on était dans un bus avec des chaises et des écrans vidéo. Donc dans les écrans vidéo, on voyait représenter la fenêtre, donc on voyait en fait ce qui se passait dans mon bus. Et le trajet, c'était, ça a été fait à Marseille. Hein. Le trajet, c'était le centre-ville, les Baumettes, puisqu'en fait c'était raconter comment on peut aller aux Baumettes, mais pas comment on y va simplement en bus, mais aussi comment on peut se retrouver aux Baumettes. Donc il y avait les Baumettes. Il y avait plusieurs trajets et on jouait dans les caves, on jouait dans les galeries d'art, et on jouait dans plein d'endroits. On était complètement en dehors de l'institution. Après, le travail qui s'appelait Homme-femme escargot, qui était autour d'une figure de femme. Alors à l'époque, on disait, parce que je vous parle de ça, c'était 2000, 2001, autour de la figure d'une femme qu'on appelait à l'époque transsexuelle, un mot qu'on ne dit plus aujourd'hui, qui était prostituée. J'avais écrit à partir d'elle parce que c'était ma voisine et qu'elle m'avait raconté des histoires, et c'était pas des histoires, c'était plutôt moi ce qui me choquait, c'est qu'elle payait des impôts en fait. Voilà. Donc c'était à partir de ça, donc je racontais des choses, puis je trouvais que la figure de la prostituée permettait d'interroger la relation de deal entre les personnes dans le cadre des relations amoureuses, parce que j'avais l'intuition que dans la prostitution le deal était très clair, c'est de l'argent contre du sexe, et que dans les relations amoureuses le deal était plus confus, et en fait donc c'était ça l'objet de ce projet. Et on jouait dans des friches. Alors pas dans des, c'était pas la friche La Belle de Mai, c'était des vraies friches. Dans des friches, dans des appartements, dans des choses, etc. Après, il y a eu plusieurs formes comme ça en fait. Et puis surtout encore avant, moi je faisais du théâtre dans les bars parce que j'étais amie avec toute la bande de Massia Sound System, etc. Et en fait, on faisait du théâtre hip-hop, en fait, tout encore avant. Et en fait, on faisait du théâtre dans les bars de nuit. Et en fait, on était exactement comme les musiciens qui font des concerts, etc. Donc, avec une copine, en fait, on disait des textes. Alors, c'est pareil, on travaillait. Le premier spectacle que toutes les filles font, c'est spectacle de filles sur les mecs, hein, en gros. Donc, c'était avec une copine, on faisait ça, sauf que nous, on était un peu intello, donc c'était des textes de Xavier Gauthier, qui est une sociologue. Estelle était sociologue, Xavier Gauthier. Je sais plus ce qu'elle était, qui était une penseuse, en fait, qui avait écrit un livre qui s'appelait Dire vos sexualités. Et en fait, on travaillait à partir de ces textes-là, qui était un truc un peu pour dire, et en fait, dire vos sexualités, c'est, en fait, on pourrait les relire aujourd'hui, et il y a, les mots changent, mais on a les mêmes questionnements, en fait. Sur, et puis là, je relis Les Parleuses de Marguerite Duras et Xavier Gauthier. Et à l'époque, donc c'est un livre qui, Les Parleuses, c'est les années 1970, je crois. Et elle parle déjà du fait que, être mère au foyer ou être femme, ça devrait être rémunéré. Donc, en fait, il y a déjà des choses qui en fait, il y a un cycle, en fait, dans les questions qu'on se pose. Voilà.
Black is blue, blue is dark.